Le fils Moga, deuxième partie, chapitre 2. L'exposition publique dure 3 jours et le jury ne rend son jugement que dans l'après-midi du 4e. Étienne Moga aurait voulu pouvoir dormir pendant ces interminables journées d'attente. Un moment, il fut tenté de rester à Bellevue et de ne retourner à Paris que lorsque le jugement serait connu. Mais la salle de l'école où son tableau était exposé l'attirait comme un aimant. Il rentra le soir même chez lui. Le lendemain et le surlendemain, les journaux rendirent compte du concours. La plupart des critiques louaient le tableau numéro 7 et lui assignaient le premier rang. Ceux-mêmes qui formulaient quelques réserves ne pouvaient s'empêcher de reconnaître le mérite de l'œuvre. Dans le monde des peintres et des élèves de l'école, l'opinion se prononçait nettement en faveur du jeune Moga. Enfin, le jour du jugement arriva. Étienne n'avait pas dormi et se sentait tout frissonnant malgré l'étouffante chaleur de juillet. Il résolut de se raidir contre l'émotion qui lui serrait la gorge et s'en alla déjeuner chez un ami qui demeurait rue de Babylone. Pendant quelque temps, tout marcha bien. Étienne, faisant bonne contenance, essayait de manger et causait avec une volubilité nerveuse. Mais vers 1 heure, il lui fut impossible de tenir en place. Il s'esquiva et s'achemina seul vers les quais. Il allait tantôt à petits pas, comme pour retarder le moment où il connaîtrait la décision du jury, tantôt avec une hâte fiévreuse, s'impatientant de la lenteur des gens qui encombraient le trottoir, et songeant qu'à cette même minute on discutait son sort. Certainement, ils me donneront le prix, se disait-il. Ils ne peuvent pas me l'ôter. Et cependant, s'ils ne me le donnaient pas ? Il s'arrêtait brusquement, effrayé de l'agitation intérieure qui le secouait, et se demandant si les passants ne lisaient pas son émotion sur sa figure. Mais les gens qui le coudoyaient s'en allaient indifférents, tout occupés de leurs propres affaires. Les omnibus roulaient comme d'habitude, les cochers s'interpellaient, les marchandes de fleurs poussaient en criant leurs petites voitures chargées de bottes de roses et d'œillets, les dames regardaient les étalages, la foule s'écoulait sans avoir l'air de se douter que, dans la grande salle de l'école, en face des 10 toiles du concours, l'Institut disposait de l'avenir d'Étienne Moga. Dans la cour des beaux-arts, les élèves attroupés discutaient avec animation en attendant la décision du jury. On trouvait généralement que, pour une question si simple, les juges dépensaient beaucoup de temps. Là-haut, en effet, les choses traînaient en longueur, et le choix du grand prix donnait lieu à un débat interminable. Les avis étaient partagés. Les peintres tenaient presque tous pour le numéro 7, mais les sculpteurs et les musiciens lui préféraient le numéro 3. Le jugement prononcé d'avance par les journaux avait indisposé plus d'un académicien. Quelques-uns s'effarouchaient du dédain du jeune Moga pour les traditions et voyaient un danger dans cet encouragement à l'art réaliste. Bref, les voix se divisaient et les scrutins se succédaient sans résultat. Vers 2 heures, un des secrétaires qui descendit dans la cour fut entouré en un clin d'œil. « Eh bien ?» lui demanda confidentiellement un élève. « Eh bien, ça ne va pas tout seul. On vote, on revote, et Moga perd des voix à chaque tour. » Cette confidence, promptement divulguée, provoqua un redoublement d'agitation et les conversations devinrent orageuses. Enfin, à 3 heures, on entendit un remue-ménage à l'étage supérieur. La séance était levée et les académiciens, en se quittant, continuaient encore leur discussion dans les couloirs. L'un d'eux descendait l'escalier, fumant sa cigarette d'un air endormi et ennuyé. Quelqu'un l'aborda et s'informa du résultat.
« C'est fini, »
murmura-t-il entre deux bouffées.
« Le prix est à l'aînier. »
À peine tombé de sa bouche, le nom du prix de Rome courut avec une rapidité électrique sur toutes les lèvres. Les élèves se le redisaient les uns aux autres. « L'aînier, c'est l'aînier !» Et le nom du vainqueur, se détachant nettement au milieu d'un murmure confus, traversait la cour, passait par-dessus la grille et retentissait déjà dans la rue Bonaparte, répercuté comme par un écho multiple. Étienne, adossé au mur du quai, en face de l'embouchure de la rue, vit tout à coup les élèves se répandre sur les trottoirs avec l'agitation d'une fourmilière sur laquelle on a marché. Il comprit que le jugement était rendu et traversa rapidement la chaussée. Il n'avait pas fait 10 pas dans la rue que le nom de l'aînier, lancé par les voix des gens qui sortaient de l'école, vint l'atteindre en pleine poitrine. Il s'arrêta, pâlit et fut forcé de s'appuyer à la vitrine du marchand de gravures.
« Eh bien oui, mon vieux, » dit un camarade en s'approchant. « Ces idiots ne t'ont donné que le second prix.
Et sais-tu qui les a décidés ?»«
Messieurs, » a fait observer un académicien, « l'aînier est pauvre, et il est trop âgé pour concourir l'an prochain. Moga est jeune, son père est puissamment riche, il a le temps et les moyens d'attendre.
Et c'est avec cette ânerie qu'il a enlevé le vote. » Étienne ne trouvait rien à répondre. Ses traits s'étaient allongés, ses lèvres souriaient machinalement. Il songeait, avec une rage sourde, à cette raison tirée de la richesse de Monsieur Moga pour lui refuser le prix. Il était donc écrit que le châtiment de cette fortune mal acquise s'attacherait à lui comme une lèpre. Il n'entendait plus rien. Les voitures avaient l'air de rouler sur des matelas. Il lui semblait que la muraille d'en face et les arbres du quai dansaient autour de lui. Son compagnon, effrayé de sa pâleur, essaya de l'entraîner. Une 20aine d'élèves avaient organisé une partie au bas Meudon. L'un d'eux cherchait à convaincre Étienne qu'il devait faire contre fortune bon cœur et se mêler à la bande, afin de montrer qu'il ne se laissait pas démonter.
« Oui, » répondit vaguement celui-ci, « j'irai vous rejoindre, mais laissez-moi tranquille un moment, je veux être seul. »
Il tourna brusquement le dos à ses camarades et rebroussa chemin dans la direction de la rue de Seine. Il avait déjà doublé l'angle du quai lorsqu'il s'entendit interpeller par quelqu'un qui avait emboîté le pas derrière lui.
« C'est bien à Monsieur Étienne Moga que j'ai l'honneur de parler ?»«
Oui, » répliqua Étienne impatiemment.
En même temps, il dévisageait son interlocuteur, un homme entre deux âges, grand, sec, avec de petits yeux fureteurs, un nez busqué et des favoris poivre et sel.
« Monsieur, » reprit l'inconnu, « j'ai vu votre tableau.
Mes compliments. C'est un très beau morceau de peinture. Mais l'Institut a bien fait de ne pas vous envoyer à Rome. Vous vous y seriez gâté. Et l'Italie n'est pas votre affaire. Si je vous dis ça à brûle-pourpoint, c'est que je m'y entends. Je suis Schwartz. »
Étienne dressa l'oreille. Ce monsieur Schwartz était un Israélite très connu à l'Hôtel des Ventes et dans le monde des arts, moitié amateur et moitié brocanteur, ayant pour spécialité d'acheter les toiles des peintres encore peu répandues, mais qui donnaient de belles espérances. Il les plaçait dans sa galerie, les y laissait dormir, comme on laisse vieillir un vin un peu trop jeune, et les revendait très cher plus tard, quand l'artiste s'était fait un nom. il avait un flair merveilleux et se trompait rarement dans ses prévisions. « Si je me permets de vous déranger, » continua-t-il, tandis qu'Étienne balbutiait, encore à moitié ahuri, « ce n'est pas, pour vous lancer à la tête, un compliment banal. La preuve que je pense du bien de votre toile, c'est que je vous l'achète 2000 francs et que je vous en commande une autre. Vous comprenez les paysans, vous. Ça se voit. Il faut exploiter cette veine-là. Partez pour la province et cherchez-y un motif campagnard. Exécutez-moi un tableau de plein air, bien franc et bien personnel. Je vous le paierai 1000 écus. Ne vous pressez pas. Je vous donne jusqu'au prochain salon. « Pardon, » interrompit Étienne, qui commençait à respirer plus à l'aise et à retrouver son aplomb. « Le tableau que vous désirez me prendra beaucoup de temps, et le temps pour moi est de l'argent, car je n'ai que mon pinceau pour vivre, quoi qu'en dise l'Institut. Aussi, je vous propose de vous payer moitié du prix d'avance. Vous voyez que j'ai confiance en vous. » Est-ce marché conclu ? Étienne ne perdit pas longtemps à réfléchir. Paris lui pesait sur les épaules et ce voyage, à la recherche d'un motif campagnard, lui souriait. « Je vous remercie, monsieur, » répondit-il en relevant la tête. « Et j'accepte. »« À merveille ! Voici ma carte. Venez chez moi demain à 10 heures. Je vous montrerai ma petite galerie et je vous compterai les espèces. Serviteur, monsieur. »